Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série « Un livre, un auteur, une œuvre » est aujourd'hui Jean-Marie Roard, dont je rappelle qu'il a été reçu à l'Académie française le 12 novembre 1998 et qui vient de publier chez Gallimard un livre intitulé « Napoléon ou la destinée ». Jean-Marie Roard, bonjour, merci
bonjour.
D'avoir répondu à notre invitation. Je précise le principe de cette série « Un livre, un auteur, une œuvre », trois grands thèmes, les points qui tiennent le plus à cœur à l'invité concernant le fond de son livre, au maximum 5, les points qui lui tiennent le plus à cœur concernant la forme de son livre, au maximum 3, et les points qui lui tiennent le plus à cœur concernant la place de ce livre dans son œuvre, au maximum 3 également. Puis en conclusion, deux questions récurrentes posées donc à tous les invités, deux questions toutes simples, et maintenant, et l'Académie dans tout ça. Alors tout de suite donc, le premier grand thème, les points qui vous tiennent le plus à cœur, Jean-Marie Roy, concernant le fond de ce livre, Napoléon ou la destinée, le premier point.
Eh bien, ma première préoccupation en écrivant ce livre, c'était de percer un mystère, c'est le mystère Napoléon. Parce que c'est à la fois l'homme le plus connu des Français, et ça reste pour eux un mystère. Pourquoi cet attachement? Pourquoi a-t-on écrit autant de livres autour de Napoléon, sur tous les hommes qui ont entouré Napoléon? Donc il y a une énigme qui est au cœur de l'histoire de France, et qui, moi, personnellement, m'a passionné. Et comme ça faisait très longtemps que je m'intéressais à Napoléon, un jour je me suis dit, bon, eh bien je vais essayer de percer ce mystère. C'était une gageure, parce que à la fois il fallait, à travers tout ce qui avait été écrit, trouver quelque chose d'original, un angle original, et donc c'était vraiment ce qui m'a animé. Voilà, à m'animer, c'était m'enfoncer dans cet homme à la fois lumineux et obscur, et essayer de percer son mystère. Alors le deuxième point, ça serait, que j'ai essayé de comprendre, c'est ce phénomène d'identification que font les Français avec Napoléon, que fait la France elle-même avec Napoléon, que beaucoup de gens dans le monde entier font avec Napoléon, parce qu'il n'y a pas que les Français qui s'identifient à Napoléon. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, les raisons de ma propre identification avec Napoléon. Au point que Jean d'Ormesson a dit que ce livre était, sur Napoléon, était un autoportrait et presque même une autobiographie.
Ce n'est pas tout à fait faux. Quand on connaît votre œuvre, ce n'est pas tout à
fait faux. C'est pas tout à fait faux. Et donc, cette identification, elle remonte très loin, puisqu'au fond, quand j'avais 18 ans, à un moment, j'avais quelques difficultés, j'avais du mal à avoir mon bac, et puis j'avais surtout une petite amie qui me trompait. Et là, eh bien, ma référence qui m'a aidé à vivre et à affronter ces difficultés, eh bien, je me suis dit, mais Napoléon aussi. Napoléon.
Joséphine vous a aidé?
m'a été trompé par Joséphine. Et là, c'est vrai que ça m'a aidé à vivre. C'est-à-dire, les difficultés, les échecs de Napoléon m'ont aidé à vivre. Et plus tard dans la vie, pas seulement quand il m'est arrivé d'être trompé, mais quand j'ai connu des difficultés, je me suis rendu compte que la lecture du mémorial de Sainte-Hélène était pour moi un dopant. C'était pour moi une source à laquelle je m'alimentais, et j'alimentais à la fois mon ambition et ma volonté de dépasser l'échec. Voilà. Donc c'est très important, c'est pour ça que ce livre, je l'ai fait autour de l'échec. C'est un livre qui éclaire Napoléon à la lumière de ses échecs.
Oui, et vous nous expliquez qu'on le comprend mieux à travers ses échecs qu'à travers ses réussites.
C'est-à-dire que les deux, c'est-à-dire que ses succès sont éclairés par ses échecs. On le comprend mieux, sa personnalité, on voit mieux l'homme vivre, parce que les livres d'histoire nous livrent un squelette, un homme qui n'existe pas vraiment, une idée à cheval, mais l'homme lui-même, on le voit très peu. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre l'homme, et cet homme, en permanence, il affronte la difficulté, pas seulement dans les moments où vraiment sa tentative de suicide ou des choses comme ça, qui sont vraiment des échecs patents, mais aussi au cœur de ses succès, à Arcole qui a failli être une défaite, à Marengo qui a failli être une défaite, en Égypte qui est carrément une défaite, mais transmuée dans la légende. Et donc le succès est vraiment un angle qui, moi, me paraît très important pour comprendre Napoléon. Et puis, à travers Napoléon, au fond, ce qui sous-tendait ce livre, c'était de comprendre la France. Parce que la France, c'est vraiment une énigme, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il y a chez les Français une ambivalence, il y a quelque chose de mystérieux chez eux et de difficilement compréhensible, parce que ils sont tout et le contraire de tout. Et Napoléon éclaire cette destinée, parce que lui, à la fois, c'est un homme qui commence par la gauche, qui, finalement, c'est un jacobin, qui va devenir premier consul, une sorte de dictateur, puis il va devenir empereur, puis finalement, il va finir rejeté par toutes les puissances étrangères monarchiques et finir à Sainte-Hélène, où il va diffuser des idées républicaines. Donc, il est un peu un résumé de l'histoire de France. Et à travers lui, je me suis posé ce mystère de la France, parce que il incarne extraordinairement les contradictions et les ambiguïtés, c'est-à-dire ce pouvoir jacobin extrêmement fort, cette nécessité pour les Français d'être réunis par un pouvoir fort. Je crois que ça, c'est un des traits. Ils ont tendance à se dissiper, à aller, à lutter les uns contre les autres dans des guerres intestines et dans des querelles intestines. Et ils ont besoin de quelqu'un qui les rassemble et les amène à se dépasser. Voilà. Bien sûr, on pense aussi à De Gaulle, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques personnalités. Et les Français sont très reconnaissants, et à De Gaulle et à Napoléon, de les avoir rassemblés, de l'avoir sorti de l'ornière. Parce que, faut bien voir aussi que Napoléon est inconcevable sans la Révolution. Et la Révolution, c'est quand même une particularité française. C'est une particularité française, et disons, plutôt dans l'horreur. Parce que nous, on nous fait une image, un conte de fées de la Révolution. La République a un peu arrangé les choses, mais c'est quand même une période atroce, une période d'anarchie, une période où le droit n'existe plus. Et donc, Napoléon est incompréhensible, il ne voit pas que c'est le remède à la Révolution. Et c'est l'homme qui va, il l'a dit lui-même, j'ai dessouillé la Révolution. C'est-à-dire qu'il va tirer de la Révolution les grands principes dont se nourrit, dont nous nourrissons encore, et principalement le mérite. Voilà. Alors ensuite, ce qui m'a passionné aussi à travers Napoléon, c'était de voir comment on pouvait tirer de lui une leçon de courage et un peu plus une leçon d'espérance. C'est-à-dire que c'est pas un homme daté dans l'histoire. Et si on continue à s'identifier à lui, s'il y a tant de gens qui ressentent une sorte de fièvre en allant en pèlerinage dans tous les lieux où il a guerroyé ou au tombeau des Invalides, c'est parce que il puise toujours en lui-même une leçon. Et cette leçon, je pense que c'est une leçon d'espérance. C'est-à-dire que Napoléon, ça montre à la fois sur le plan personnel, mais sur le plan collectif, que la France se sort toujours finalement des périodes les pires, des périodes noires qu'elle a connues, bien après des périodes effroyables, et bien tout de suite il y a la lumière.
Mais toujours à la recherche de la grandeur.
Oui, à la recherche de la grandeur, mais des périodes en passant par des périodes qui sont des périodes très très médiocres. Donc c'est une leçon, je pense, d'espérance collective, et c'est une leçon d'espérance personnelle, parce que voilà, en analysant sa vie, en faisant dérouler le fil de sa vie, on se rend compte que cet homme finalement a été en proie à l'adversité, qu'il l'a surmonté, et ça vous donne le sentiment de la présence de l'esprit, de la présence de force. Je veux dire, ça renforce notre croyance, au fond, que rien n'est jeté au hasard. Nous ne vivons pas dans une vie de hasard. Moi, je crois, comme Mitterrand, aux forces de l'esprit, et je crois que, finalement, quelque chose nous guide, je ne sais pas quoi. Bon, je ne suis pas... J'ai pas la foi, mais j'ai le sentiment que quelque chose nous guide. Et Napoléon avait cette idée, était persuadé qu'il était guidé par une forme de providence. Voilà.
Un destin.
Un destin. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Napoléon, ou la destinée, c'est que la question de la destinée est pour moi essentielle dans la vie de Napoléon, mais aussi dans la mienne.
Oui. Mais concernant la vie de Napoléon, n'y a-t-il pas un paradoxe dans le fait qu'il ait cette perception de la destinée, cette hantise d'un destin, et en même temps une vision tellement sombre de la vie, au point de vouloir au moins par trois fois se suicider, d'avoir des crises profondes de désespoir? Quelqu'un qui croit en son destin peut ainsi, en même temps, avoir cette...
Oui, c'est paradoxal, mais il faut bien voir qu'il a toujours vécu dans une très profonde culture latine. C'est un homme qui considère que quand la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, le suicide est une ressource. Et vous savez, sa fameuse phrase, quand il dit Tout le monde aimerait mourir assassiné à la condition d'être César. Ben ça, c'est typiquement... Et ça montre que, pour lui, la vie doit être toujours au sommet. Voilà. C'est la leçon qu'il donne. La vie doit être toujours au sommet. Et si, pour des raisons d'adversité, les raisons... Eh bien, à ce moment-là, le suicide est une... Enfin, il le considère. Parce que ce qui importe le plus pour lui, c'est la postérité. Il veut laisser une image impeccable pour la postérité. Il faut bien reconnaître qu'il a pas mal réussi.
Alors, de ce point de vue-là, est-ce qu'on ne peut pas dire, et c'est ce qui transparaît dans votre livre, que Sainte-Hélène a été une grande chance pour lui, quoi. Formidable chance.
Oui, oui, c'est vrai que ça a été une chance du point de vue de la postérité. Parce qu'il ne faut pas comparer Napoléon avec des hommes d'État proches ou même lointains qui ont voulu, comme Thiers ou bien comme Giscard d'Estaing ou des hommes contemporains comme Jacques Chirac. Non, c'est pas des hommes qui ont voulu, c'est pas des hommes de gestion. Il a voulu montrer aux hommes, il a voulu rester comme un mythe, montrer ce qu'un homme était capable de faire au cours de sa vie. Voilà. Et il a montré dans sa courte vie, finalement, un parcours absolument inouï qui reste comme un mythe grec, comme le mythe de Prométhée ou un de ses grands mythes qui nourrissent l'imagination.
Oui, vous le mettez, vous, sur le même plan qu'Alexandre, que César, et peut-être même avant, même un peu.
Non, je veux dire, on ne va pas comparer des gens exceptionnels. Je veux dire, chacun a vécu à son époque, dans des conditions particulières, et chacun a sa forme de légende. Mais, disons, par rapport à Jules César, qui appartenait à une très grande famille romaine, ou à Alexandre, qui était un fils de roi, lui, c'est le premier qui soit le fils, qui l'a dit, je ne suis le fils que de moi-même. Qui était donc parti démuni, et je crois que c'est ce qui provoque cette identification. C'est ce qui fait que il nous paraît très proche, parce qu'au fond, chacun pourrait avoir le destin de Napoléon si il avait à la fois le talent et la chance et le mérite.
Oui, vous dites d'ailleurs que c'est l'homme qui nous a gouverné le plus proche des Français, probablement avec Henri IV. Et encore, Henri IV, on peut pas très bien vérifier, mais le lien avec les Français, c'est le lien le plus fort de notre histoire.
Ah oui, c'est incomparable. Parce que c'est un lien à la fois physique, et les Français ont compris que c'était le même genre d'homme qu'eux. C'est-à-dire c'est un homme, au départ, qui n'a rien, et qui se fait lui-même, mais loin de vouloir mettre une distance avec les Français, au contraire, il est toujours très proche d'eux, proche avec ses soldats.
Oui, le bivouac.
Oui.
Ce que vous dites d'ailleurs de sa phrase extraordinaire sur sa façon de concevoir ses campagnes, le mot, je ne l'ai plus en tête.
Il dit « Je fais mes plans de campagne avec les rêves de mes soldats endormis ».
C'est extraordinaire. Voilà. D'où le don de ces soldats, enfin ce que vous racontez d'ailleurs sur le retour de son cercueil le 15 décembre 1840, et il y a là des grognards qui se laissent mourir. C'est extraordinaire, ça.
Non, mais pas seulement au moment du retour des cendres, mais de son... Il faut voir la veille d'Austerlitz, le lien que les soldats ont avec lui, vraiment, ils se font tuer pour lui. Je veux dire, c'est des hommes qui ont un attachement à Napoléon, mais pas seulement les soldats, les Français... Et vous savez, s'il y a eu le retour de Napoléon III, et s'il y a encore autant de cérémonies, s'il y a encore autant de livres écrits sur Napoléon, c'est parce que le lien est resté. C'est le lien, je crois, le plus fort qui soit resté avec un chef d'État.
Mais vous dites même que le lien va beaucoup plus loin, dans la mesure où le général de Gaulle pensait lui-même que 1940, enfin, vu du côté de Londres, était impensable sans Napoléon.
Oui,
c'est extraordinaire.
De Gaulle a très bien jugé, à mon avis, c'est l'homme qui a le mieux jugé Napoléon, disons, sur le plan politique.
Oui, il n'a pas jugé sous l'angle de la morale.
Non, parce que, alors là, vraiment, ça c'est la grande erreur, c'est vouloir juger les hommes de l'histoire à travers le prisme des droits de l'homme. Autant les droits de l'homme nous sont très utiles aujourd'hui, et Dieu sait que les droits de l'homme, moi, ont beaucoup compté dans ma propre vie, puisque je me suis battu pour Omar Haddad. Donc, les droits de l'homme, je trouve ça très important, c'est pas la question. Mais c'est important pour nous, aujourd'hui, qu'on se batte pour les droits de l'homme aujourd'hui, on a raison. Mais si on se met à juger l'histoire, alors à la revisiter à travers les droits de l'homme, on fait une absurdité.
Ni la morale en général.
Ni la morale, c'est pas la question.
Et le duc d'Enghien, par exemple, ça vous paraît être un coup...
Non mais
pas la bonne hiérarchie.
Je peux très bien comprendre, disons, l'indignation de Chateaubriand et des légitimistes de l'époque. Mais en même temps, il faut le resituer. Moi, je ne partage pas leur point de vue, dans la mesure où ils ne s'indignent pas. C'est légitimiste quand on tente d'assassiner à 10 reprises. Presque chaque jour, il y a une tentative d'assassinat contre le premier consul.
Donc il faut le juger en tant qu'artiste de la politique,
voilà.
C'est ça?
Non, il faut comme poète de sa vie, artiste de la politique, il faut le juger dans son ensemble et se rendre compte que, erreur, parce qu'il y a des erreurs, faut pas. Moi, j'ai pas du tout voulu entrer dans un panégyrique. Non, ça serait pas du tout. Mais il faut replacer les choses en se débarbouillant un peu de ces idées reçues, de ces conformismes. Parce que la République nous dit, les républicains, qui ne l'aiment pas parce qu'ils ont un peu peur de ces hommes providentiels, comme ils ont eu peur de De Gaulle. Et ils nous disent, mais regardez tous les morts qu'il a fait. Mais je dis, attention, mais la République, la guerre de 14, c'est pas Napoléon. Les 1 500 000 morts, les guerres mais de la
Napoléon,
Révolution.
Napoléon, c'est quand même, ce sont 3 millions, quand
non,
même.
Non, non, c'est pas, jamais été 3 millions. Non, c'est pas 3 millions.
C'est le chiffre de Lafayette.
Non, 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 mais oui, mais les chiffres de Lafayette et l'ennemi, vous prenez les chiffres les ennemis de Napoléon. C'est pas vrai. C'est faux. Il n'y a pas eu autant de morts. Et vous remarquerez une chose, c'est que il y a une immense reconnaissance des Français après toutes ces batailles. Puisque, au moment des 100 jours, ils vont l'accueillir à nouveau avec ferveur. Vous n'avez pas eu la même chose après la guerre de 14, je peux vous dire.
Et pour les 100 jours, vous dites, je n'ai pas fait un panégyrique, tellement qu'on puisse dire, parce que le Napoléon que vous nous dépeignez pendant les 100 jours, ce n'est plus Napoléon.
Oui, mais il y a des moments, c'est ça qui est intéressant, c'est en cela qu'il est humain, c'est qu'il y a des moments où il a le feu sacré, il y croit, il se bat, puis il y a des moments où il n'y croit plus. Bon, les moments, la période des 100 jours est une période, il faut dire, extraordinairement difficile, puisque c'est un miracle. C'est une sorte de miracle, mais qui prouve une chose, qui prouve que le lien avec les Français ne s'est pas rompu, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Mais il y a une équivoque, hein, il y a une ambiguïté, dites-vous, dans votre livre. Les Français l'attendent pour autre chose que ce qu'ils voudraient faire.
C'est-à-dire que un certain nombre de Français qu'ils soutiennent sont plutôt les Français de gauche, c'est-à-dire les Français, les révolutionnaires qui voudraient recommencer la Révolution. Et lui, il est vacciné contre la Révolution. Il a très bien compris que cette Révolution, chez les Français, elle serait sans fin. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, encore, il y en a encore chez les trotskistes, chez les gens qui voudraient finalement les partageux, développer ce sentiment d'inégalité pour continuer une Révolution qui ne peut pas aboutir, parce que c'est sans fin.
Qu'on appelle donc, l'égalitarisme.
Quoi. Voilà, l'égalitarisme. Donc, je pense qu'il se méfie finalement de ses soutiens. Et il sait très bien que, même s'il avait gagné à Waterloo, je crois qu'il aurait dû affronter les alliés réunis, tous ensemble, et il ne peut pas vaincre autant de gens ligués contre lui.
Donc ça, il le savait. Mais vous parlez de la légende. Est-ce que le plus bel exemple de l'ampleur de la légende, de cette dimension de la légende, n'est pas fourni à propos de Waterloo, quand on voit ce qu'a été la réalité assez misérable de Waterloo, et de savoir ce qu'à côté Victor Hugo en a fait dans Les Misérables? C'est quand même effarant.
Oui,
parce que
mais,
Les Misérables,
mais,
ça devient grandiose,
non,
Waterloo.
Toute bataille.
Ça devient grandiose.
Toute bataille. Si vous l'analysez, même les grandes victoires comme Austerlitz, c'est un peu misérable. Il y a des choses atroces qui se passent quand ils visitent le champ de bataille après, que les gens, les mourants, qu'ils donnent de l'eau de vie, c'est effroyable. Donc, il y a un très beau mot de Wellington qui dit, après Waterloo, il dit, je ne connais rien de pire qu'une bataille gagnée, rien de plus triste, sinon une bataille perdue. Voilà, donc se dire, il n'y a pas vraiment de victoire quand on s'est battu, vous savez, c'est tellement dur, c'est tellement effrayant. Mais en même temps, c'est vrai, ce qui importe pour lui, c'est de donner des images et faire rêver les Français. Et je dois dire, il a compris que la politique, c'est pas seulement faire une gestion de la vie des Français, leur apporter la sécurité, ce qu'il a apporté, leur apporter la prospérité, ce qu'il leur a apporté, c'est en même temps les faire rêver. Les peuples, et surtout les Français,
les hisser au-dessus d'eux-mêmes,
ont besoin d'être hissés au-dessus d'eux-mêmes, mais aussi ont besoin de rêves. Ils ont besoin d'un roman. Il a été un peu le romancier de la vie des Français.
Deuxième grand thème de cette série, un livre, un auteur, une œuvre. Quels sont, Jean-Marie Rouard, les points qui vous tiennent le plus à cœur concernant la forme de votre livre, donc Napoléon ou la destinée? 3 points au maximum, le premier?
Eh bien d'abord, j'ai essayé de faire un livre qui n'était pas ennuyeux. Parce que quelquefois...
Réussi.
Quelquefois,
on ne lâche
j'ai remarqué
pas, on ne lâche
certains
pas.
Livres d'histoire où abondent les notes sur les notes, et finalement, on ne sait plus de quel est le sujet, tellement il y a de notes. Et tout ça écrit dans un style un peu pâteux, un peu vague, avec des abstractions. C'est très abstrait. Et je suis revenu peut-être à... Moi, ce que j'aime, c'est des historiens comme Benoît Méchain, comme Michelet. Voilà, qui pourtant n'aimait pas Napoléon, mais j'aime beaucoup Michelet comme écrivain, comme historien. Moi, je suis un écrivain, je ne suis pas un historien, je suis un écrivain, enfin j'essaie d'être un écrivain, qui parle de l'histoire, donc un peu à la manière de, je vais prendre un exemple écrasant, à la manière d'Oswald ou de Paul Morand avec son Fouquet. Donc j'ai voulu écrire un livre dans lequel il y ait du plaisir. Voilà, il n'y a plus beaucoup de plaisir maintenant, hélas, en histoire, et j'ai voulu que le lecteur éprouve du plaisir en lisant que ça soit gouléant, vous voyez, qu'on savoure les scènes, parce qu'il y a des scènes quand même magnifiques. Il y a des moments extraordinaires, aussi bien dans la détresse de Napoléon que dans les moments de joie. Il y a des personnages qui sont inouïs, donc j'ai voulu faire des portraits de personnages.
Ah, il y a des portraits, permettez que j'en cite un.
Oui, non,
celui de Benjamin Constant, alors n'y allez pas de main morte, hein. Nature femelle, ondoyante, tendre sous le cynisme, toujours en recherche d'une volonté forte qui puisse dominer ses épuisantes contradictions, il était naturel que sa complexion de mollusque s'attachât à un rocher. Il n'y avait pas des moments où vous disiez quand même je suis allé un peu fort.
Mais non, mais là, non, vous savez,
le mollusque, s'il y a quelqu'un, Benjamin Constant.
Mais oui, non, mais s'il y a quelqu'un qui aime Benjamin Constant, l'écrivain Benjamin Constant, c'est moi. Adolphe. Je l'adore, je lui reparlais, je voulais même écrire une biographie de Benjamin Constant. Mais là, je ne le vois pas comme écrivain. Je le vois dans ces contradictions, dans ces cafouillages de politique.
Étonnant, hein.
Voilà,
c'est tout ça au pied de Juliette Ricamier.
Voilà, il y a un mélange. C'est quand même, ça ne pouvait que foirer cette histoire en prenant Napoléon s'appuyant sur Benjamin Constant. Ça ne pouvait que s'effondrer. Donc, je me moque un peu de Benjamin Constant, mais c'est pas parce que je me moque de lui que je ne l'admire pas. Je l'admire comme écrivain. Mais je dis comme politique, il n'était pas tout à fait à la hauteur. Bon. Donc, j'ai voulu donner des images du plaisir. Ça, c'est très important dans l'histoire parce que, qu'on ait le sentiment de revivre, que la vie soit là. Vous voyez, la vie avec ses différentes couleurs, avec son clair-obscur. Et puis...
Objectif atteint, hein, je le dis tout de suite.
Ça, c'est clair.
Et puis...
Deuxième chose.
Traitant de ce sujet, j'ai voulu qu'il y ait de l'allant, il y ait du mouvement. Voilà, je voulais pas que ça soit une espèce de mare, un peu fétide, avec des nénuphars. Non, je voulais que ça bouge. Et j'ai voulu que faire un livre, on galope. Voilà,
c'est de la cavalerie, j'allais dire, c'est de la cavalerie.
Il y a du galop, il y a du galop. Alors, quelquefois, on s'arrête, il y a des moments de réflexion, on réfléchit un petit peu. Mais cette réflexion vient plutôt des faits que je décris, plutôt que de longs paragraphes dans lesquels je me livrerai à des longues réflexions.
Non,
je
donc, à nous d'être intelligents, quoi, en vous disant.
Non, je laisse le lecteur tirer les conclusions, même si parfois, je donne quand même mon opinion. Ce que j'ai voulu montrer aussi, c'était ce mélange de grandeur et de faiblesse dont est fait la patte humaine. Voilà, ça, c'était ça. Mais pas seulement chez Napoléon lui-même, chez les personnages qui accompagnent sa vie, qui sont extraordinaires. Le personnage de Barras, c'est quand même un personnage vraiment très haut en couleur. Le personnage de Sieyès, un personnage aussi extraordinaire. Ne parlons pas de Talleyrand, de Fouché. Voilà, tout autour, j'ai voulu aussi montrer ces personnages qui sont, enfin, ils sont sortis tout droit d'un roman de Balzac. Enfin, c'est extraordinaire.
Alors, quant à la forme, il y a un autre trait qui apparaît non seulement dans les portraits, mais partout dans le livre, c'est le sens de la formule. Hein. Je retiens par exemple cette formule, vous dites « Il est coupable, parlant de Napoléon, d'un crime de lèse-petitesse, avoir trop aimé la grandeur. » Quand on trouve une formule comme celle-là, hein, « coupable d'un crime de lèse-petitesse », vous avez éprouvé une espèce de jouissance intellectuelle ou pas ?
Non, j'éprouve de la jouissance comme vous le lisez, vous me dites « vous trouvez que c'est... » Mais sinon, non. Non, je suis pas dans l'autosatisfaction.
Non, bah, et, quand même, ça doit faire plaisir, non?
Non, quand vous me le dites,
crime de
quand,
petitesse,
quand vous le relevez, ça me fait plaisir. Parce que j'ai essayé, en effet, d'être moi-même et d'avoir un style qui ait du corps, qui soit un peu imagé, voilà, sans trop en abuser.
Alors, troisième grand thème de cette série, un livre, un auteur, une œuvre, les points qui vous tiennent le plus à cœur, Jean-Marie Roy. Concernant la place de ce livre, Napoléon ou la destinée, dans votre œuvre et là-dessus, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à lire.
Alors, tout d'abord, je vais récuser un mot...
Jean d'Ormesson n'a pas tout à fait tort.
Je vais récuser un mot, c'est le mot « mon œuvre ». Je n'ai pas le sentiment...
Non, avec un peu de recul, on dit ça.
Je n'ai pas le sentiment...
On ne dit pas ça de façon pompeuse.
Hein, non.
L'ensemble des livres que vous avez écrits.
Oui, bien sûr, mais...
Plus de 30.
Voilà. Mais moi-même, je n'ai pas le sentiment d'avoir une œuvre, parce que je ne suis pas dans le passé, je ne suis pas dans le rétroviseur, je suis dans le présent, dans l'avenir.
Mais elle se construit.
Moi,
elle se construit.
Oui. Mais j'ai plutôt tendance à me péjorer et à douter.
Ça, c'est vous, ça.
Et
toute chose.
Mon problème, c'est d'exister. Voilà. Vraiment, j'ai un problème, je vous le confie. Eh bien, c'est ce qui m'a animé dans la vie, c'est la peur de ne pas exister et le doute sur mon existence et le désir d'exister en m'affirmant et m'affirmant par le seul moyen que j'avais sous la main, qui était écrire. Voilà. C'est par l'écriture que j'arrive parfois à exister, mais c'est fragile. Vous voyez, alors vous me dites, vous faites des compliments, j'en suis très heureux. Mais ça m'aide à exister. Mais je crois qu'on écrit plus si on a ce sentiment vraiment qu'on a réussi à exister. Moi, c'est une conquête de chaque jour. C'est comme un polder. Vous savez, c'est polder qu'on a construit sur la mer. Puis on a l'impression que il peut y avoir une brèche. Et puis la mer va reprendre tout le territoire. Et il ne reste plus rien. Et bien moi, je trouve ça très fragile. Donc je me bats. Je me bats pour exister pour plusieurs raisons. C'est que, au fond, j'ai vécu dans une famille de peintres. J'avais un arrière-grand-père qui était peint, d'ailleurs, qu'on expose en ce moment au musée Marmottan, Henri Roy. Et j'avais un oncle peintre, et mon père, Augustin Roy, était peintre également. Et ces hommes doutaient beaucoup d'eux-mêmes, mais eux n'ont pas été jusqu'à s'affirmer, jusqu'à vouloir exister dans la société. Ils ont voulu exister comme peintre, comme artiste. Et moi, ma particularité dans cette famille, qui n'aimait pas beaucoup les académies d'ailleurs, je suis le premier.
Vous non plus d'ailleurs, avoir nous, franchi... je peux sortir des textes de vous quand vous parliez, oui c'est ça, je veux pas être un toutou académique.
Ah bah oui, c'est autre chose. Ah, mais ça, c'est...
Attendez, vous voulez que je vous sorte une phrase?
Oui, ou... allez-y, non, on en parlera tout à l'heure,
oui, je vous sortirai tout à l'heure.
D'accord, mais non, mais cette famille était, qui était très liée aux impressionnistes, donc était assez en opposition avec les académies. Mais moi, j'ai essayé de réconcilier justement mon travail d'écrivain avec la société. Voilà. Je me suis dit, on peut à la fois avoir une certaine probité, j'espère en avoir, et exister comme, essayer d'exister comme écrivain, mais en même temps, jouer le jeu de la société. C'est peut-être ce que j'ai peut-être fait un peu trop d'ailleurs, parce que finalement, moi je respecte beaucoup les gens qui restent tout à fait à l'écart de la société, qui restent, voilà, des gens marginaux. Moi j'aime beaucoup les marginaux.
Mais marginal à l'échec, il y a qu'un pas chez vous, hein, parce que c'est peut-être ce qui rend la lecture de ce livre le plus passionnant, c'est de se rendre compte que vous êtes dans le livre, parce que Napoléon, vous dites, c'est la sublimation d'un échec, et quand je regarde la liste de vos titres, je n'en citerai que trois. Ils ont choisi la nuit, la noblesse des vaincus, le goût du malheur. Vous avez une fascination de l'échec, ça c'est clair.
La fascination de l'échec, je dirais que je considère que c'est vrai, j'ai une vision un peu pessimiste dans la mesure où je considère toute vie est un échec. Toute vie est un échec parce qu'on meurt. Parce qu'on meurt, parce que tout est difficile, l'amour est difficile, l'amitié est difficile. Vous savez, Proust disait « Je ne crois pas à l'amitié, mais j'en jouis. Mes amis croient en l'amitié, mais ils n'en jouissent pas. » Donc oui, quelle que soit la position qu'on ait, c'est difficile. Donc je crois que toute vie est un échec. Et en même temps, ce que je trouve formidable, c'est pour un artiste. L'artiste a le privilège de pouvoir transmuer cet échec en quelque chose de lumineux. Voilà, c'est une œuvre artistique, qui finalement donne une image du bonheur. Berthe Morisot, qui laisse une image extraordinaire du bonheur. Hemingway, qui donne une image extraordinaire du bonheur. Et puis, derrière tout cela, ben, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de sentiments d'échec. Je crois qu'être un artiste, c'est vivre en permanence avec cet abîme qui est l'échec.
Et de le sublimer.
Voilà. Et de le dépasser et essayer d'atteindre quelque chose qu'on sait qu'on n'atteindra jamais. Mais, il y aura peut-être un lecteur qui trouvera dans ce qu'on a écrit un réconfort, un moment d'espérance, ou bien un moment de joie, un moment de joie, un moment de plaisir. Moi, je crois énormément au plaisir.
Quand on lit, voilà. Effectivement, c'est ce qu'on recherche. Hein. Mais vous allez quand même plus loin dans vos livres, c'est que pour vous, il y a une noblesse dans l'échec. La noblesse des vaincus était très claire là-dessus.
Vous savez, je compare très souvent...
Comme si c'était un art de vivre, l'échec. Comme si c'était un viatique.
Je crois qu'il y a...
Un peu comme Jean Anouilh, hein. Vous prenez Beckett, oui, vous prenez Jeanne d'Arc, vous prenez Antigone.
C'est vrai.
Mais c'est-à-dire qu'il y a, quand même... destinées à l'échec et à la mort.
Il y a quand même beaucoup de gens plus sympathiques. Les gens qui ont échoué sont souvent plus sympathiques que ceux qui ont réussi. J'ai pris l'exemple du cardinal de Bernis, qui était un homme merveilleux, qui était le ministre des Affaires étrangères de Louis XV, qui était extraordinairement sympathique et gentil. Il a échoué parce qu'il était trop gentil, alors que Choiseul, qui était plus une brute, a réussi. Donc j'ai cette fascination pour ceux qui échouent, parce que j'ai remarqué que c'était les tendres, c'était ceux qui avaient un grand idéal. Et puis, il y a par-dessous tout cela, peut-être, c'est une espèce de petite rivière souterraine qui serait la vie spirituelle. Je crois qu'il y a entre la vie artistique et la vie spirituelle des liens extrêmement riches et profonds, voilà. Et je me semble que...
Sans être forcément croyant. Hein.
Non, sans être croyant, moi je crois...
L'idée d'une transcendance, comme on dit aujourd'hui, c'est ça ?
Je suis croyant, oui, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Et en tout cas, il me semble que le travail artistique est un travail qui vous élève vers une sorte de Dieu et vous amène à une élévation. Voilà, vous avez une élévation. Je crois que l'esprit, le travail de l'esprit, vous amène à vous dépasser, à vous hisser au-dessus de vous-même. Et ça, pour moi, c'est très important.
C'est ce dont vous avez besoin, oui. Je retrouve au passage, puisqu'on parlait d'échec il y a quelques minutes, là, je retrouve une feuille avec un texte de Simon Leys. Vous le connaissez, le texte sur Don Quichotte.
Oui, oui, oui.
Ça, vous pourriez le reprendre à votre compte. Je le relis. Les gens qui réussissent sont ceux qui savent s'adapter à la réalité. En revanche, ceux qui persistent à vouloir élargir la réalité aux dimensions de leurs rêves échouent. Et c'est pourquoi tout progrès humain est dû en définitive aux gens qui échouent.
Oui, oui. Ben ça, c'est une
vous pourriez le reprendre, ce texte-là ?
Complètement, je le reprends complètement. Puisque Voilà, ce que je n'aime pas beaucoup, c'est les gens qui se satisfont de peu, c'est-à-dire qui se satisfont des réalités. Voilà. Moi, je crois que les gens qui sont contents parce que ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont riches, ils ont obtenu une certaine position sociale. Voilà. Ça, je crois que ce sont des apparences de réussite un peu médiocres. Et à cela, j'oppose des gens qui ont échoué, j'oppose les Baudelaire, les Verlaine, et des gens qui ont même échoué complètement socialement, même beaucoup échoué sur le plan académique, puisque Verlaine avait eu zéro voix à l'académie, oui, et que vous savez que Baudelaire, on l'a dissuadé de se présenter.
Oui, donc, mais enfin, il y a le pouvoir des mots.
Il y a le pouvoir des mots, oui,
avec mais enfin... Avec les années, les décennies, les siècles,
voilà, ils sont là. Ils ont eu une postérité extraordinaire.
Au fond, le pouvoir des mots, c'est ce qui vous fascine le plus. Et Napoléon, c'est un peu ça. Le mémorial de Sainte-Hélène, c'est le pouvoir des mots.
Non, c'est vrai, mais le pouvoir...
C'est pour ça qu'il a fasciné tellement les écrivains des mots, du 19e, quand même.
Moi, je ne pense pas tellement au pouvoir des mots sur les autres. Ce qui m'importe, c'est le pouvoir des mots pour m'aider à vivre. Parce que c'est ça, mon but, c'est quand même de m'aider à vivre, de trouver un sens à ma vie. Alors qu'ensuite, après ces mots, on puisse apprécier mes livres, j'en suis très content, bien sûr, j'en suis ravi. Mais disons, c'est pas le but. Le but, c'est quand même... déjà de me sauver moi-même et de me trouver un sens.
Alors, est-ce que ça veut dire que vous pourriez reprendre à votre compte ces deux affirmations du personnage, j'ose pas dire le héros, de La guerre amoureuse, donc un roman que vous avez écrit il y a pas longtemps, et qui dit très précisément ceci, « Écrire, ce n'est pas seulement aligner des mots sur le papier, c'est se retrancher du monde dont on observe la mécanique et les drames pour accoucher de la vérité de soi-même. » Et quelques pages plus loin... Écrire, c'est vouloir être aimé, aimé parce que compris, donc vraiment aimé pour ce qu'on a d'unique, sous les apparences, les mensonges et les malentendus. C'est vous, ça ?
Ah oui, bon, oui, complètement. Je crois qu'il y a dans le désir d'écrire, de s'exprimer ou de peindre, le désir d'être compris, et quand on est compris, on est aimé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on recherche ? Pourquoi est-ce que les gens recherchent autant l'amour ? Ben, c'est ça, c'est... À travers cet amour, ils ont le sentiment qu'ils sont enfin compris.
Oui, mais le drame, et c'est vous, l'amour, vous n'y croyez pas. Quand on lit vos textes, je me souviens d'un roman qui s'appelait Le voleur de jeunesse. Vous vous souvenez du voleur de jeunesse?
Oui.
Bon, et vous dites toujours, on ne peut pas être aimé et aimé en même temps, ça n'existe pas.
Je crois qu'il y a des moments. Ce qui est important, ce sont ces moments intenses, comme les œuvres d'art. C'est-à-dire, vous savez...
Oui, mais l'œuvre d'art reste.
L'œuvre d'art, oui, mais elle fixe à un certain moment, un moment de bonheur. Ben, je crois que notre vie s'est accumulée ces moments intenses où une femme vous aime, elle vous aime peut-être pour quelques jours. Bon, ben, c'est déjà très important.
Donc, la mémoire
elle vous aime, vous l'aimez.
C'est ça.
Eh bien, ça crée presque une œuvre d'art. C'est
la mémoire en soi est plus importante, en fait, que les...
Pas la mémoire, l'instant qui est vécu et qui, comme une œuvre d'art, eh bien, embellit votre vie.
Alors, revenons à Napoléon par rapport à votre œuvre. Pour comprendre pourquoi vous avez donné tant de passion dans l'écriture de ce livre, il y a aussi le fait que quand on regarde tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez fait comme journaliste aussi, vous êtes fasciné, vous, par les époques, les périodes où ça bascule, quoi, et où ça peut basculer. Vous aimez ça?
Oui.
Et la période 1785-1815, on est servi, quoi.
Oui, j'aime les périodes où il y a des combats. Voilà, j'aime les gens, je crois à la perfectibilité, je crois que les sociétés peuvent s'améliorer. Et c'est vrai que j'ai mené des combats, j'aime bien les gens qui mènent des combats. Et à travers, je vais vous dire, à travers ce livre, sur Napoléon, j'ai eu le sentiment de mener un combat. Parce que...
Alors, lequel parce que je peux en identifier bien d'autres hein, dans ce que vous avez fait.
Mais il y a un combat, c'est-à-dire que Napoléon n'est pas à sa place. Et là, d'accord, il est aux Invalides, d'accord, tous les boulevards, les grands boulevards, les grandes avenues portent les noms de ses maréchaux, mais lui-même, il a une toute petite rue, la rue Bonaparte, et on peut pas dire que la République ait fait beaucoup d'efforts pour commémorer ses victoires. Même Austerlitz, il n'y a pas eu un mot. Donc, la République a une sorte de... Je dis pas de mépris, mais elle le néglige. Et quant au livre d'histoire, n'en parlons pas. Il est complètement évacué des livres d'histoire. Personne n'en parle. Comme si c'était vraiment une histoire dont il fallait se débarrasser.
Il fait
comme
peur,
si c'était une culotte de peau qui avait uniquement tué des Français, des malheureux Français. C'est absurde. C'est quand même, c'est nier notre histoire profonde, nier ce que nous sommes. Nous sommes un morceau de campagne napoléonienne. Il y a une partie de l'âme française qui est dans Napoléon. Le rejeter, c'est nous rejeter nous-mêmes. Et ça, c'est un gros défaut de l'autocritique, de l'autodénigrement des Français, d'évacuer de leur histoire leurs grands hommes. Non, c'est un peu un combat que j'ai mené. À travers ce Napoléon, je voudrais qu'on accepte, qu'on dise qu'il a pas fait que des choses bien, Napoléon, mais qui dans une vie ne fait que des choses bien, quand on est un homme d'État. Bien sûr, il y a
c'est la démesure dans les deux sens, quoi.
Mais au moins, qu'on reconnaisse, comme le reconnaissait De Gaulle, que cet homme est indispensable à l'histoire de France et qu'il a aidé les Français, finalement, à se hisser au-dessus d'eux-mêmes.
Oui, c'est ça. Ce qui vous fascine peut-être aussi, c'est que Bonaparte, plus encore que Napoléon, a bousculé plein de choses. Mais vous, vous évoquiez Omar Haddad, mais auparavant, quand vous étiez au Figaro, vous avez eu quelques ennuis pour avoir dénoncé les pratiques des pétroliers. Et pour reprendre quelque chose de beaucoup plus récent, parce qu'on peut se penser que, étant académicien maintenant, vous vous êtes assagi. Mais quand je regarde, je relisais là ces jours-ci le livre publié en 2009, donc cette opposition qui s'appelle « La vie », vous n'y allez pas de main morte, hein, pour dénoncer certains patronats à l'égard des sans-papiers, pour parler des OGM, et pour terminer sur l'ultralibéralisme, il y a quand même cette formule, le fameux Père Noël de Wall Street est une ordure. Au fond, la provocation est au cœur de votre vie.
Non, c'est pas la provocation. Non, vraiment, c'est pas la provocation.
C'est l'indignation.
Non, c'est l'indignation.
C'est très curieux, parce qu'en même temps, vous ne croyez pas à la possibilité de bouleverser complètement les choses, mais vous y allez quand même, quoi.
Si, mais je crois qu'on
peut. Il y a du Tolstoï là-dedans. Il y a l'idée que la justice est au-dessus de l'ordre. C'est ça l'idée?
Voilà. C'est vrai, oui. Et puis, moi, je me sens du côté des faibles. Vous savez, Romain Gary avait une très belle formule. Il disait, j'ai mal chez les autres. C'est vrai que, bien qu'issu d'une famille, c'est vrai, de bourgeois, plutôt de grands bourgeois, moi, je me sens proche de ceux qui souffrent. Et quand je les sens maltraités, quand je sens qu'il y a... C'est vrai que ça me fait vibrer. Moi, c'est une forme de... Je me sens très proche des gens qui souffrent. C'est peut-être parce que j'ai une culture catholique, c'est vrai, mais il y a peut-être d'autres raisons. Mais je crois que comme écrivain, au fond, mes combats, ça a été toujours de défendre, à l'origine, quelqu'un qui n'avait pas les moyens de se défendre et que la société écrasait. Voilà. Je crois que cette société... Donc je peux apprécier tous les avantages. Mais en même temps, quand elle écrase des malheureux, ben j'essaie de la défendre.
Si je vous disais, à titre très personnel, que pour vous situer dans l'univers des écrivains, je parle pas du style, je parle du fond, vous êtes, il me semble, à la fois quelque part du côté d'Anouilh et du côté de Bernanos, les deux en même temps.
Oui, mais je n'ai pas ni le talent de Bernanos, bien entendu. Parce que Bernanos, si vous voulez, il est...
C'est l'homme du petit.
Dérupté, il a une image de la grandeur. Moi, j'aime bien la grandeur, mais modérément, pas avec l'exagération de Bernanos.
Quand même.
C'est quand même quelqu'un qui a une démesure. Moi, je ne suis pas dans la même démesure. Il y a un côté espagnol chez lui, il y a quelque chose, ou même russe. Non, mais de toute façon, ce sont des écrivains qui ont traduit tous. Il y a des combats très généreux de Bernanos, bien sûr. Non. Mais disons, l'homme dans lequel je me reconnaîtrais le mieux, bien que je ne sois pas pratiquant, c'est Mauriac. Voilà. Eh bien, Mauriac... Je trouve que c'est un homme qui a essayé de faire le bien, il a, comme écrivain, voilà, son combat contre la torture, voilà. Moi, je crois que mes deux combats sont, c'est vrai que mon principal combat, c'est un combat d'ordre pour essayer d'écrire des livres, être un écrivain, mais en même temps, je ne néglige pas, c'est vrai, ces combats parallèles pour tenter de venir en aide à ceux qui en ont besoin.
Vous parliez du côté espagnol de Bernanos, mais vous-même, vous êtes fasciné, un peu comme Goya, par le mal.
Oui, mais je pense que ça, on ne peut pas.
Oui, mais à ce point-là, chez vous.
On ne peut pas y échapper parce que ce qu'il y a d'affreux, c'est cette nécessité du mal. Parce que sans le mal, il n'y a pas de bien. Donc, c'est un débat métaphysique extrêmement compliqué. Et puis, pour le romancier, c'est vrai que le romancier, c'est à travers le mal qu'il arrive à, finalement, c'est son domaine d'élection. Hein, c'est tous les écrivains, évidemment, surtout Dostoïevski, se sont penchés sur le mal parce que c'est à travers les monstres, finalement, qu'on en a des révélations sur les gens bien portants.
Alors, en conclusion de cette émission de notre série Un livre, un auteur, une œuvre, place à deux questions récurrentes, donc posées donc à tous les invités. Deux questions toutes simples. Jean-Marie Roire, la première, et maintenant?
Eh bien, écoutez, maintenant, je vais continuer à vivre avec Napoléon, parce que quand on a abordé un homme comme Napoléon, c'est comme une histoire d'amour. Vraiment, on la porte avec soi, même quand le livre est terminé. Finalement, on a... Le fait d'avoir tellement penché sur cette vie, d'avoir tellement analysé, j'ai dit qu'il avait élevé les Français au-dessus d'eux-mêmes. Ben moi, il m'a porté un peu au-dessus de moi-même. Et puis, en plus, il y a un élément, il m'a mieux fait comprendre la France. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Vous savez, c'est une grande interrogation. Pour moi, j'ai écrit un livre, Adieu à la France qui s'en va. Et tout Français s'intéresse à la France. Parce que je pense que dans la France, il y a des valeurs universelles. Moi, ce qui m'intéresse dans la France, c'est l'idée de la France. Et la France comme marchepied vers l'universel.
Mais c'est une particularité française, ça ?
Oui, ça je pense. Je pense, et j'en ai beaucoup parlé avec les Vietnamiens, j'avais fait un voyage au Vietnam, et ce qu'ils aimaient, la France, c'est ce que Romain Gary a aimé, c'est-à-dire de pouvoir avoir ses origines, sa nationalité d'origine, et en même temps un marchepied vers l'universel. Et je pense que les Vietnamiens ont regretté que la France se détache complètement d'eux, parce que ça leur permettait d'être à la fois aide aux Chinois et en même temps d'avoir une ouverture sur l'universel, comme pour Romain Gary sur le plan individuel.
Mais ça nous ramène encore au général de Gaulle. Là.
Oui.
C'est la même démarche.
Oui, tout à fait. Mais je pense que de Gaulle avait conscience de la mission universaliste de la France.
Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses dans toute la campagne de promotion, comme on dit aujourd'hui, de ce livre ? Vous avez appris des choses essentielles sur Napoléon, vous dire, tiens, si j'avais su...
Non, ce que j'ai appris, ce que je savais déjà un peu, c'est à quel point les Français vibrent. Ils ont une fibre qui continue de vibrer, une corde sensible sur Napoléon. Alors bien sûr, il y a des gens dans les deux sens, il y a des gens qui n'aiment pas, qui détestent, mais la plupart des gens, quand même, ont le sentiment que mon livre répare une injustice, voilà, qu'on l'a maltraité, qu'on continue de l'avoir maltraité. C'est drôle, mais c'est très fort encore en France.
Vous n'avez pas vu la petite pièce de Soizic Moreau, ou alors là, c'est la critique la plus féroce de Napoléon qu'il y ait eu depuis Maurras, la pièce sur Moreau, vous n'avez pas vu ? Ah ben allez voir, et vous allez nous dire ce que vous en pensez après, parce que là, Napoléon se fait traîner dans la boue. Hein. Alors, cinquième et dernière question de notre série Un livre, un auteur, une œuvre, Jean-Marie Roy, avec toute la part de jeu que cette question implique, évidemment, et l'Académie dans tout cela.
Eh bien, l'Académie, écoutez, je suis à la fois, j'éprouve une fierté modeste, pour employer un oxymoron, d'être à l'Académie. Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Et je pense très souvent à tous les gens qui n'ont pas eu cette chance, qui souhaitaient y rentrer, qui ne sont pas rentrés. Et je crois beaucoup, je ferai une extrapolation à un phénomène religieux qui est la communion des saints, vous savez. Et je crois qu'il y a, dans le monde littéraire, il y a des gens qui ont eu des avantages, non pas au détriment, mais pour compenser, si vous voulez, des échecs. Je crois qu'il y a une sorte de... Peut-être que j'ai eu l'Académie, mais ça compense le fait que Baudelaire n'ait pas été à l'Académie, que beaucoup d'autres gens qui le méritaient largement plus que moi n'y soient pas entrés. Et d'ailleurs, quand j'ai été élu, je m'y suis repris à 5 fois.
Et pourtant, hein, j'ai retrouvé ce que vous disiez. Hein. Vous parliez des empanachés de l'Académie.
Oui, mais si vous voulez, quand j'ai été élu, un journaliste est venu me voir et m'a dit « Alors, vous êtes heureux ?» Je dis « Non, je suis inquiet. » Il dit « Mais pourquoi êtes-vous inquiet ?» Je dis « Je suis inquiet parce que j'ai eu 16 voix de plus que Balzac. Balzac n'avait eu que 2 voix. » Donc voilà, moi je suis enchanté d'être à l'Académie. Je trouve ça, c'est une chance. C'est vraiment une merveilleuse chance.
Oui, mais qu'est-ce que l'Académie vous a apporté de plus fort, à vous,
mais
personnellement?
Non, je pense que ça... D'abord, l'Académie m'a apporté quelque chose de vraiment d'incomparable, c'est de ne plus penser à entrer à l'Académie.
Ça vous a torturé,
parce
c'est
que...
vrai?
Ah oui, mais c'est... forcément. Forcément, vous savez, il y a une phrase de Barrès que j'aime beaucoup. Il dit « Il faudrait tout obtenir afin de pouvoir tout mépriser. Tout désir social, au fond, est une compromission. » Est une compromission, et c'est vrai que à partir du moment où vous désirez la Légion d'honneur, moi je suis ravi d'avoir la Légion d'honneur, mais à partir du moment où vous désirez certaines choses, et que vous vous battez pour les avoir, je veux dire des choses sociales, eh bien vous n'êtes plus dans le spirituel. Voilà, vous êtes dans la compromission matérielle, dans l'intrigue, enfin bon, et dans une forme d'intrigue, même je ne crois pas être le plus intrigant des intrigants. Donc, et je trouve que c'est très agréable de ne plus y être, au fond, et d'avoir atteint un rêve. Et moi, vous savez, l'Académie, c'était très romanesque, parce qu'au fond, ce que je souhaitais, c'était retrouver les écrivains que j'avais aimés quand j'avais 18 ans, que j'avais connus, d'ailleurs, en ce moment-là.
Là, vous avez de bons amis, quand même.
Jean d'Ormesson, Michel Mort, Félicien Marceau, Michel Déon, que j'avais été voir, alors qu'ils n'étaient, eux, pas du tout académiciens, à ce moment-là. Le jour où je suis entré à l'Académie, et bien, vraiment, je me suis pincé, parce qu'il y avait Lévi-Strauss, il y avait des gens immenses que j'avais aimés dans ma jeunesse, et au lieu de les remplacer, d'être à leur siège, leur fauteuil, faire leur éloge. Non, j'étais à côté d'eux et je trouvais ça intensément romanesque. Moi, ce qui me plaît dans l'Académie, ça a été pour moi, en dehors de, c'est très flatteur, bien entendu, d'être à l'Académie et que c'est une grande chance et que je crois que la chance, c'est un des éléments de la vie.
Mais si vous aviez une idée à faire passer sur ce que vous voyez aujourd'hui à l'Académie, la façon dont elle fonctionne?
Non, je crois que le grand problème de l'Académie française, c'est l'entourage, c'est-à-dire que l'Académie française incarnait une société littéraire très ancienne. Elle incarnait une France littéraire très ancienne. Mmh. Et elle n'en était que l'expression. Et cette France littéraire disparaît peu à peu. La société littéraire disparaît peu à peu. Et l'Académie se retrouve
seule. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Moi, je veux dire que les salons littéraires, tout ce qui irriguait l'Académie. Et j'ai encore connu ça. Moi, j'ai encore connu, dans les années 70, justement, les derniers salons littéraires, le salon de Madame la Duchesse de Rochefoucauld. Bon. Où on voyait les jeunes ambitieux, les jeunes arrivistes, les personnages de Balzac qui se présentaient. Et c'était, disons, l'antichambre de l'Académie. Eh bien, toute cette société littéraire disparaît. Donc l'Académie se retrouve, parfois, elle a le sentiment de se retrouver un peu comme ces vaisseaux, vous savez, dans la mer d'Aral, où il n'y a plus d'eau en dessous du vaisseau, il a du mal à avancer, donc voilà. Donc il faudrait, alors, mais ça c'est une grande ambition, reconstituer, redonner justement à notre société le goût de la littérature pour que l'Académie puisse avoir quelque chose à côté d'elle, dans un contexte, vous voyez, une sorte d'environnement.
De ce point de vue littéraire, quelle est la personne dont vous regrettez le plus qu'elle ne soit pas aujourd'hui membre de l'Académie ?
Oh, il y en a beaucoup. Alors, je serais, alors là, Jean Delumeau, par exemple, qui est un grand savant, un historien extraordinaire. Jean Tullard, par exemple, qui a des sciences morales et politiques, mais j'aurais bien aimé qu'il soit à l'Académie française. Jean Raspail, bon, que je trouve...
Patagonie,
dont je partage pas, forcément, ses idées, mais enfin, c'est un grand écrivain.
Vous parlez pas de Le Clésio ?
Mais Le Clésio, c'est notre problème, parce que là, Le Clésio ne veut pas venir à l'Académie. Donc, on peut pas regretter. Non, mais à partir du moment où quelqu'un ne veut pas venir... Là, je parle de gens qui souhaitaient venir.
Donc, Modiano, Le Clésio.
Bien sûr. Vous savez, moi, j'aimerais que vraiment tous les grands écrivains qui incarnent la littérature française souhaitent entrer à l'Académie. Mais il se trouve qu'il y a eu des bouleversements. Maintenant, les écrivains n'ont plus, on n'est plus au 19e siècle où le but de tous les écrivains, c'était de rentrer à l'Académie.
Si je disais, pour essayer de résumer un peu votre démarche, que vous êtes un provocateur qui a besoin d'être aimé.
Non, alors là, je refuse.
Le mot provocateur.
C'est le mot provocateur parce que vraiment.
Mais pas besoin d'être aimé.
J'ai pas. Si, besoin d'être aimé, mais
c'est. Un point énorme, quand même.
Mais besoin d'être aimé. Tout le monde a besoin d'être aimé.
À ce point-là.
Je crois qu'on ne fait rien.
L'originalité, c'est que vous avez besoin d'être aimé, mais en même temps, vous dites ce que vous pensez.
Non. Oui, mais.
Vous ne ménagez personne.
C'est différent.
Mais c'est ça. C'est ça qui est intéressant.
C'est pas la provocation. C'est pas la provocation. C'est, vous voyez, pour résumer ce que vous venez de dire, je dirais que, c'est vrai que je me suis engagé dans le combat pour Omar Haddad au moment où je me présentais à l'Académie. Beaucoup de gens m'ont dit, mais ça va vous nuire pour rentrer à l'Académie.
Bon, c'est clair.
Sauf que ça m'a pas nuit. Mais si j'avais à choisir, non, j'aurais pas renoncé, justement, à l'affaire Omar Haddad, à défendre Omar Haddad pour l'Académie. Je ne veux pas renoncer à moi-même. C'est là où je parlais des toutous académiques. Je ne veux pas renoncer à moi-même, mais c'est pas pour provoquer. Si je vous promets que si je me suis battu pour Omar Haddad, j'aurais préféré qu'Omar Haddad soit acquitté. Voilà. Mais si je l'ai défendu, c'est pas par provocation. Pas du tout. Non, la provocation n'est pas dans mon caractère. J'aime, au contraire, j'aime l'harmonie, j'aime que les gens s'entendent. Et quand je guerroie, j'ai le sentiment, non, que c'est pas mon, bien qu'adorant Napoléon, je n'aime pas beaucoup la guerre.
Ouais, mais vous auriez bien aimé être au pont d'Arcole.
Non, je sais pas. Non.
Quel est le moment de la vie de Napoléon dont vous auriez bien aimé qu'il soit de votre vie?
Eh bien, c'est ces moments. Non, c'est la rencontre avec Goethe, vous voyez.
Ah oui.
Oui, c'est la rencontre avec Goethe, c'est ces rencontres avec Benjamin Constant.
Oui,
c'est ça. Moi, je crois que la guerre est la pire des choses. Alors, c'est paradoxal de venir d'écrire la biographie, de m'être penché si longtemps sur un homme de guerre. Mais je crois que c'est une époque où il pouvait y avoir une esthétique de la guerre, ce qui n'est plus le cas maintenant avec la guerre moderne. Mais je suis un homme de paix. Je trouve que la guerre, c'est une chose atroce. Et chaque fois qu'on déclare une guerre, que ce soit la Libye, que ce soit maintenant toutes les formes de guerre, l'Irak, j'étais contre. Voilà, je suis contre la guerre. Je trouve que c'est parce que la guerre, c'est une idée. Et derrière, il y a des gens qui meurent, il y a des civils, des gens qui souffrent. Et ça, je trouve ça abominable. Donc, je suis contre la guerre.
Ainsi s'achève cette émission de notre série Un livre, un auteur, une œuvre, dont l'invité était aujourd'hui Jean-Marie Roire. Jean-Marie Roire qui a été reçu à l'Académie française le 12 novembre 1998 et qui vient de publier chez Gallimard un ouvrage intitulé donc Napoléon ou la destinée. Lisez ce livre, lisez-le, je parie que vous n'envisagerez plus le destin de Napoléon de la même manière, ni même, oui, je le dis, les relations entre les peuples, le pouvoir et l'histoire. Jean-Marie Roire, merci.
Merci.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.